Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Stratégie arc-en-ciel au sein de l'UE. La Commission européenne veut en finir avec les discriminations qui touchent les LGBT. Elle entend faire reconnaître entre États membres les droits parentaux acquis par tous les couples gays et lesbiens. Son plan d'action prévoit aussi de sanctionner tous les actes homophobes. Une initiative qui ne passera pas inaperçue en Hongrie où le Premier ministre ultra-conservateur Viktor Orban semble poursuivre une stratégie inverse. Son parti a rédigé une nouvelle constitution qui définit le mariage comme une union entre un homme et une femme. En mai dernier, son parti a voté une loi qui empêche les transsexuels de faire reconnaître légalement leur nouvelle identité sexuelle. Conséquence, des transsexuels quittent la Hongrie pour s'installer dans des pays européens plus libéraux. Florence Labruyère est allée à la rencontre de deux femmes transsexuelles qui ont choisi de rester en Hongrie.
C'est une maison toute simple, entourée d'un jardin. Nous sommes à Polgárdi, une ville de 6 000 habitants à une centaine de kilomètres de Budapest. C'est là qu'habitent Tamara et Sylvia, avec leurs 4 chiens, leurs 2 tortues et leurs 17 chats. Tamara et Sylvia vivent ensemble depuis 6 ans. Dans une première vie, Tamara et Sylvia étaient des hommes. Mal à l'aise dans un corps masculin, elles ont changé de sexe il y a quelques années. Elvira a 53 ans, vêtue d'une élégante robe rouge, discrètement maquillée, elle confie, tout en jouant avec son collier, qu'elle se sent femme depuis très longtemps.
Quand j'étais enfant, je sentais que je n'étais pas comme les autres, mais je ne savais pas qui j'étais. J'ai mis longtemps à découvrir mon identité. Sous le socialisme, on n'avait aucune information. À l'époque, les gens différents étaient tous qualifiés de PD. Aujourd'hui, il y a l'expression LGBTQ.
Quand la Hongrie est devenue une démocratie en 1990, tout est devenu plus facile pour les transgenres.
Après la chute du communisme, les choses ont évolué de manière positive. Les personnes qu'ils voulaient ont pu faire reconnaître leur nouvelle identité sexuelle.
En 2013, Elvira fait changer ses papiers. La procédure est facile. Il faut le rapport d'un psychologue et d'un psychiatre. Elle obtient sa nouvelle carte d'identité en quelques mois et elle reçoit aussi un extrait d'acte de naissance indiquant qu'elle est de sexe féminin. Mais Tamara, elle, n'a pu déposer sa demande que beaucoup plus tard, en 2018.
Je ne vivais plus avec mon épouse depuis longtemps, mais pour pouvoir changer d'identité officiellement, il faut divorcer. Or, mon divorce a pris beaucoup de temps. Quand il a enfin été prononcé, j'ai immédiatement déposé mon dossier, mais c'était trop tard. Les autorités avaient décidé de suspendre les demandes de changement d'identité.
L'administration hongroise cesse de répondre aux demandes car elle sait que le gouvernement prépare un projet de loi. La loi est votée en pleine pandémie en mai 2020 par le parti nationaliste de Viktor Orban. Intitulé « Article 33 », le texte enterre la pratique progressiste des 2 dernières décennies. Il remplace le mot « genre » sur le registre d'état civil par l'expression « genre à la naissance », ce qui empêche les transgenres comme Tamara de changer officiellement d'identité. Le paradoxe est que cette loi a permis aux deux femmes de passer devant monsieur le maire. Le mariage entre deux personnes de même sexe est interdit, mais d'après ses papiers, Tamara est toujours un homme. Et rien n'empêche un homme d'épouser une femme, comme le raconte Elvira.
On s'est mariés le 6 novembre à la mairie de Polgárdi, dans la salle des mariages. Finalement, c'est grâce à l'article 33. Avant, comme on pensait que Tamara recevrait ses nouveaux papiers, on avait juste l'intention de faire une union civile, qui est permise par la loi.
Posée sur une table du salon, une photo les montre toutes les deux en robe blanche, un bouquet de fleurs à la main. Elvira et Tamara sont le premier couple transgenre à se marier en Hongrie.
Soit les gens sont indifférents, soit ils nous acceptent. La majorité est tolérante. C'est le gouvernement qui attise la haine. Quelles seront les conséquences? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, la haine vient du gouvernement.
Tamara et Sylvia ne se sont pas mariés à l'église, mais le prêtre de l'église catholique a un regard bienveillant sur leur mariage civil.
Pour l'église, le mariage est une union sacrée entre un homme et une femme. Mais ce couple a utilisé la possibilité que lui offrait la loi. Ici, personne n'a parlé de cet événement. Les habitants sont plutôt indifférents envers ce couple. Peut-être que cette indifférence a du bon. Au moins, personne ne leur jette des œufs ou quoi que ce soit. Pourtant, tout le monde sait où elles habitent. Voilà, c'est la vie à Polgárdi.
En Hongrie, une 20aine de personnes transgenres ont porté plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. car la loi votée par le gouvernement hongrois ne respecte pas la liberté de changer d'identité, une liberté inscrite dans la Convention européenne des droits de l'homme. Mais Tamara n'est pas sûre de poursuivre son combat juridique.
Je voulais faire reconnaître ma nouvelle identité, mais ce mariage, c'est un cadeau de la vie et ça me rend tellement heureuse. J'ai 57 ans. Ça n'est pas sûr que je gagne devant la justice et ça arrivera peut-être quand j'aurai 65 ans.
Tamara et Elvira ont trouvé le bonheur. Elles participent à des associations et envisagent, pourquoi pas, de se présenter comme conseillère municipale.
Alors que seuls 13 pays membres de l'Union autorisent les mariages entre personnes de même sexe, en Lettonie, dans le nord-est de l'Europe, près de la Baltique, une union civile pour les personnes homosexuelles n'est toujours pas à l'ordre du jour. Le Parlement vient d'en rejeter le principe, mais la Cour constitutionnelle vient de prendre une décision symbolique. Dans un couple homoparental, le deuxième parent a droit à un congé suite à la naissance de son enfant, tout comme dans les couples hétérosexuels. Cette victoire a un visage, celui d'une avocate d'affaires de 41 ans qui a porté ce combat. Son portrait est signé Marielle Vitureau.
Depuis 15 ans, Evita Koza, avocate d'affaires, est de toutes les luttes pour la reconnaissance de la communauté LGBT en Lettonie. Elle a participé aux premières marches des fiertés dans les rues de Riga. Elle est aussi à l'origine de la toute première association de personnes homosexuelles en Lettonie. Mais saisir la Cour constitutionnelle pour faire reconnaître son droit au congé parental en tant que parent de l'enfant de sa compagne est certainement son engagement le plus personnel. La Cour a mis un an à rendre sa décision, un délai relativement court. Au final, victoire, l'un des articles de la Constitution lettonne stipule que la famille est une valeur qu'il faut protéger. La Cour en a fait l'un des socles de son argumentation. Elle demande aussi au Parlement de modifier la loi. Les députés ont jusqu'au 1er juillet 2022 pour faire en sorte que tous les couples puissent bénéficier de ce congé parental. En tant que requérante, Evita Koza peut bénéficier immédiatement de ce droit. Cette décision historique de la Cour constitutionnelle va redonner de l'espoir aux militants pour les droits LGBT, car leur situation est toujours difficile en Lettonie. Fin octobre, le Parlement a rejeté en première lecture une initiative populaire qui demandait la création d'une union civile pour les couples de même sexe. Il y a quelques jours, un sociologue reconnu, professeur à l'université, a été victime d'une attaque homophobe. Même si le ministre des Affaires étrangères ou la présidente du Parlement assument publiquement leur homosexualité, les lignes politiques bougent encore très lentement.
Et aux frontières de l'UE, en Turquie, les transgenres sont régulièrement victimes de violences. Mais la cour d'assises d'Izmir a rendu là encore un verdict exemplaire. Elle a condamné un policier à la prison à vie pour le meurtre d'une transsexuelle en janvier 2019. Une condamnation qui était très attendue par la communauté LGBTI du pays. Récit des faits avec notre correspondante à Istanbul, Anand Lauer.
Le 9 janvier 2019, dans un appartement d'Izmir, le ton monte entre Hande Şeker, une prostituée transsexuelle, et son client. Ce dernier, un policier, refuse de payer d'avance le montant de la passe. Il la force à se déshabiller, elle résiste, il tire plusieurs fois avec son arme de service. Il finit par la tuer, puis il viole une de ses amies blessées présentes dans l'appartement. Enfin, il frappe et agresse sexuellement le corps sans vie de Hande Şeker. Le policier est arrêté et il ne niera jamais les faits. Presque 2 ans après, la justice vient de le condamner à la prison à vie pour homicide volontaire et à 41 autres années de prison pour viol, vol, blessure et atteinte à l'intégrité. Pour chacune des charges retenues, la Cour lui a infligé la plus lourde sentence possible. Elle ne lui a donc accordé aucune réduction de peine, aucune circonstance atténuante, comme le prévenu le réclamait. Contrairement à tant d'autres procès de tueurs ou de violeurs de personnes transgenres en Turquie, la justice s'est montrée, cette fois, intransigeante. Les avocats de la famille de Hande Şeker et les militants LGBTI ont salué ce verdict, même s'ils réclament encore que la perpétuité devienne une perpétuité aggravée, qui imposerait aux condamnés une détention plus stricte. Ils vont donc faire appel, sans pour autant renier l'espoir qu'a fait naître ce verdict. L'espoir que les violences envers les transsexuels ne soient plus impunies ou punies au rabais. L'espoir que les victimes dénoncent plus souvent ces violences, qu'elles prennent confiance en la justice. L'espoir, enfin, que l'État prenne au sérieux ces violences récurrentes, notamment celles qui sont commises par des membres des forces de l'ordre. Pour la première fois dans le procès d'un meurtre d'une transsexuelle, le gouvernement turc était partie civile et représenté par un avocat. Selon l'ONG Transgender Europe, qui publie chaque année un recensement précis, la Turquie est le pays d'Europe où les meurtres de personnes transgenres sont les plus fréquents. 54 meurtres ont été répertoriés ces 12 dernières années, dont 3 l'année dernière.
C'est un documentaire unique en son genre. Silent Voice raconte l'exil politique d'un jeune homosexuel tchétchène en Belgique, dans cette république du Caucase intégrée à la Fédération de Russie et dirigée d'une main de fer par Ramzan Kadyrov. Le pouvoir poursuit ses opposants jusqu'en dehors de ses frontières. En 2017, le journal Novaya Gazeta avait publié une enquête terrifiante sur les sévices infligés aux homosexuels, victimes de guet-apens, arrêtés, enfermés, puis torturés dans des lieux gardés secrets. En Tchétchénie, l'homosexualité est un tabou absolu. Bonjour Étienne Bouche.
Bonjour Frédéric.
Vous avez vu pour nous ce documentaire percutant.
Effectivement, le film a été présenté à Amsterdam dans le cadre du festival IDFA. Le film raconte l'histoire de Khavaj, un jeune Tchétchène qui pratique les arts martiaux mixtes. Khavaj a fui en Belgique quand son homosexualité a été dévoilée. Mais le spectateur n'apprendra rien de nouveau sur le sort des homosexuels de Tchétchénie. Khavaj se trouve dans un état de choc qui l'a rendu aphone, et c'est cette perte de voix qui façonne la narration du film. Je vous propose d'écouter Reka Valéric, le réalisateur.
Le film est très silencieux. Il a très peu de paroles car je n'avais pas envie de questionner Khavaj sur ce qu'on lui a fait subir, comme si l'on était dans une structure d'accueil pour les réfugiés. Je ne pense pas que cela m'aurait permis de mieux le connaître ou de mieux le comprendre. Je voulais qu'on le voie comme un être humain et non comme une statistique, qu'on ait l'impression d'être en contact avec son corps, sa peau, ses muscles. Et c'est la raison pour laquelle ma caméra est aussi proche de lui.
Et cette caméra, elle parvient à saisir cette immense solitude intérieure qu'aucun contact ne semble en mesure de briser. Pour des raisons de sécurité, Khavaj vit en vase clos, passe d'une chambre d'hôtel à une autre, son visage n'apparaît jamais. Sa plus grande crainte, c'est d'être retrouvé par l'importante diaspora tchétchène. Il faut savoir qu'en Belgique, les clubs de MMA sont tous tenus par des tchétchènes, ce qui empêche Khavaj de pratiquer ce sport qui a une très forte valeur symbolique en Tchétchénie. Ce que filme le réalisateur, c'est un déracinement à la fois inévitable et insurmontable. Reka Valeric, qui est lui aussi tchétchène, a véritablement ausculté son personnage et il a pu observer une certaine incompréhension des militants associatifs.
En réalité, Khavaj préférait revenir en arrière, tout effacer, retrouver la vie qu'il menait en Tchétchénie. Parce que la sexualité n'est qu'une partie de sa personnalité et qu'elle ne le définit pas en tant qu'individu. Et les associations ne comprennent pas cette mentalité. Elles estiment que les réfugiés comme Khavaj doivent être particulièrement reconnus et heureux d'avoir fui. Sauf que ce n'est pas la réalité. Désormais, Khavaj va devoir changer son nom, son prénom, s'inventer une nouvelle histoire, un passé, rompre tous les liens avec sa famille, renoncer au sport qu'il aime tant. Il va devoir vivre dans le mensonge toute sa vie.
Le drame de Khavaj, c'est bien cet impossible retour et le deuil de sa vie passée. Les rares paroles du film sont prononcées par sa mère. Comme Khavaj ne lui répond pas, elle lui adresse des messages vocaux. Des messages très forts qui expriment incompréhension, souffrance et sentiment d'humiliation.
Et cette voix de Grozny, Étienne, révèle que la découverte de l'homosexualité de Khavaj est en fait une malédiction pour l'ensemble de sa famille.
Oui, l'homosexualité est absolument intolérable au sein de la société tchétchène et elle frappe d'indignité la famille entière. Pour en laver l'honneur, le frère aurait dû lui-même tuer Khavaj. Pour la mère, la moindre sortie en ville est une humiliation car elle ne peut plus supporter le regard des autres. L'acceptation est impossible et Khavaj, lui, doit porter la culpabilité de ce déshonneur. Un déshonneur qui s'ajoute à une histoire familiale déjà fracassée par la guerre qui a traumatisé autant qu'elle a effacé les traces du passé.
Merci Étienne. Silent Voice de Reka Valeric est présenté au Festival international du film documentaire d'Amsterdam jusqu'au 6 décembre. pour notre chronique en un mot. Nous choisissons toutes les semaines un mot étranger, parfois étrange, qui fait partie du langage courant de nos voisins. Et notre choix s'est porté cette fois sur Moro. En espagnol, le nom vient historiquement des morts et il désigne aujourd'hui toutes les personnes originaires du Maghreb, souvent de manière péjorative, Diane Cambon.
On se croirait dans une série de Games of Thrones avec une musique grandiloquente et des costumes à la limite du kitsch. Il s'agit en fait de la bande-annonce des festivités du mois d'août qui ont lieu chaque année dans les villes et villages du littoral méditerranéen espagnol où se rejouent les batailles entre les morts et chrétiens, ces derniers étant toujours les vainqueurs. Les morts, les moros, deviennent de riches et importants sultans entourés de nombreuses femmes jusqu'à l'arrivée des courageux chrétiens qui reprennent la ville. Référence historique à la Reconquête, ces fêtes sont désormais sous le feu de la critique, même en dehors de la période d'été où elles sont organisées. Elles transmettent une image péjorative des moros, des morts, considérés comme les éternels perdants. Pour la linguiste Sara Fernandez, ces festivités sont caricaturales et chargent négativement le mot moro.
On a toujours célébré les fêtes des morts et chrétiens. Tout cela fait partie de notre imaginaire atavique des croisades. C'est tout cela qu'il y a derrière le mot moro. Moi, je ne l'apprécie pas du tout et j'essaie vraiment de ne pas l'utiliser. Chaque fois que je l'entends dans la bouche de quelqu'un, cela vient d'une personne dont l'idéologie est de droite, qui est raciste vis-à-vis des Marocains. C'est un terme négatif et très méprisant.
Dérivé du mot latin maurus, le terme était à l'origine utilisé pour décrire les Berbères et les personnes originaires de l'ancienne province romaine de Mauritanie, aujourd'hui l'Afrique du Nord. Puis le terme a été attribué aux Sarrasins qui soumirent l'Espagne en 711, puis par extension à tous les musulmans qui vivaient en Europe. À partir de la Renaissance, le mot « mort » a également été employé pour décrire toute personne à la peau noire ou hâlée. Pour Souaï, artiste peintre marocain qui vit à cheval entre Malaga et Assila, au Maroc, cette référence à la couleur de la peau marque beaucoup l'usage du mot « moro ».
Moi, je ne ressemble ni par mes traits ni par la couleur de ma peau à un Marocain, et donc pour les Espagnols, je ne suis pas un moro, sauf quand au fil de la conversation, ils apprennent que je suis Marocain, alors là, oui, ils m'appellent le Morito, avec le diminutif, c'est plus chaleureux.
Selon le contexte et qui l'emploie, le terme moro est plus ou moins connoté négativement, comme l'explique Abraham, qui vit à Madrid depuis 20 ans avec ses deux filles et son épouse. Il enchaîne les petits boulots dans la maçonnerie et l'agriculture.
Si on me dit moro avec le sourire, ça va. Je travaille avec des Espagnols et certains m'appellent moro. Mais si on me le dit avec une certaine nervosité et avec un mauvais regard, là, c'est pas bon. Mais le plus dur, c'est pour mes enfants, car à l'école, si on leur dit mora, ça leur fait beaucoup de peine.
L'usage du terme moro crée une barrière entre les Espagnols et les autres, reconnaît le peintre Souaï.
Moi, je vis davantage au Maroc, car c'est là où je me sens chez moi. Et quand j'entends le mot moro, même si c'est dit avec affection, eh bien, cela t'éloigne de l'intégration.
Le poids historique qui pèse sur le mot moro complique l'intégration des populations maghrébines. Aujourd'hui, les Marocains constituent la première population étrangère d'Espagne avec près de 761 000 personnes officiellement enregistrées.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Groslot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain.